Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Imagine, tu te retrouves après un accident ou une maladie dégénérescente à devoir te dire « Tiens, je vais passer le reste de ma vie sous respirateur, sous perfusion, jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, avec des douleurs du corps qui vont aller s'amplifiant. » Je veux dire, demain, ça peut être fini, quoi. Donc du coup, j'ai en fait pour moi un bénéficiaire auquel je vais donner le max de plaisir, de bons moments, avant qu'il parte.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comment, quand on n'a jamais été travailleuse du sexe, décide-t-on d'offrir tendresse, caresse, orgasme à de parfaits inconnus en situation de handicap, et ce dans le seul but de soulager leurs souffrances psychiques et physiques? C'est pour comprendre cette forme extrême de don de soi que Brise-Glace a tendu son micro à Claire, assistante sexuelle d'une trentaine d'années. Elle nous parle du rapport au corps malade et questionne la sacralité qui entoure souvent la sexualité.
Alors, je suis née à Bruxelles. Et j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait mon école primaire à Bruxelles. Après quoi, j'ai fait une école en France. Et ensuite, je suis arrivée en Suisse au gymnase de Burier à Montreux. J'ai aussi fait l'université de Lausanne. Et puis voilà.
Quel rapport vous aviez avec votre propre sexualité quand vous étiez ado, jeune femme?
Complexe, comme plein de personnes qui ont été éduquées dans la religion catholique, véhiculée par Écône en Valais. Voilà, ce sont des milieux fermés et très coercitifs en fait. T'avais la messe en latin avec une catéchèse très stricte. Tu vas à ta messe, t'entends que des histoires d'apocalypse, de fin du monde, de fin de l'âme, d'enfer, de tous ces gens barbares autour de toi. Tu sais même pas qui c'est, ils ont pas de visage. C'était horrible. Tout ce qui était jouissant, c'était passible d'enfer. Et prendre du plaisir, mais c'était général. Prendre du plaisir dans son choix de vie professionnel, c'était passible d'enfer. Et puis la femme, elle doit se marier ou être nonne. Ou alors faire du bénévolat. Grosso modo, c'est ça. Et l'homme peut avoir des rêves, faire une carrière, parce que tout lui est permis. Nous, les femmes, ben déjà, on avait des consignes vestimentaires épouvantables. Et devenir une femme, c'était se poser des questions sur la maternité aussi, très vite. Je n'ai pas eu la case de penser au plaisir avant de penser à la maternité. L'acte sexuel procréant, on va dire pénétration avec éjaculation à l'intérieur, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Du coup, j'ai toujours eu l'impression, plus jeune, d'avoir un peu volé ce plaisir à la sauvette, quoi. Et de se dire, ah, il faut le cacher, il faut pas trop l'intérioriser, mais on y va quand même, parce que bien sûr, il y a les pulsions. Je veux dire, la masturbation, j'ai pas eu besoin d'avoir un cours pour ça, mais ça reste quand même cette espèce de face cachée de toi-même. Et puis, tu prends des années pour déconstruire, mais...
Est-ce que, enfant, jeune femme, vous aviez déjà des contacts avec des personnes handicapées ou en situation de handicap?
Oui, oui, oui. J'ai toujours été touchée petite par les personnes âgées et les personnes avec handicap. Très petite, j'avais rencontré une femme et j'ai jamais vraiment compris son histoire parce qu'elle avait un problème d'élocution important. Et cette femme, j'étais lui parler, j'ai poussé sa chaise, je lui ai tenu de compagnie, j'avais pas grand chose à dire parce que j'étais vraiment genre minus, quoi. Et elle m'a offert une peinture magnifique, vraiment très très belle. Et c'est dingue en fait, tu vois quelqu'un à mobilité réduite et en fait ils ont des choses merveilleuses dont on n'a pas idée. Puis voilà, ça m'a toujours touchée ça. C'est toujours un peu difficile en fait quand t'es enfant, tu vois que quelqu'un va mal. Quand t'es petit, tu te dis pas tiens, je peux lui acheter une nouvelle chaise ou un exosquelette de compète et puis où je peux donner des milliards de dollars à la recherche pour améliorer son quotidien, ben non, tu vas direct avec l'affect. Et puis tu dis, voilà, moi je veux te donner de l'amour, tu sais pas ce que c'est, mais c'est le seul truc que t'as quand t'es gamin, en fait.
Donc à quel moment de votre vie est-ce que l'assistanat sexuel est entré dans votre champ de conscience ?
Eh bien, de manière chronologique, c'était 2013-2014. Et je me suis posé la question parce que simplement des personnes avec handicap m'avaient parlé sur un banc au bord du lac. On a engagé des conversations et puis ça venait toujours au même point, c'est que ils sont exclus des groupes déjà parce qu'ils peuvent pas faire les mêmes activités, donc les sorties, ben voilà, ça va être assez limité. Et puis ils sont aussi exclus au niveau de la parole parce que on ne tient pas forcément à déchiffrer ce qu'ils veulent dire. Ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute. Et du coup, quand il te parle, ben, je sentais vraiment une forme de désespoir. Et puis je me suis dit, tiens, ben, qui s'occupe de leurs besoins sexuels ? Parce que dans le cas où tu trouves pas une partenaire, ben oui, la prostitution existe. Une personne lambda comme vous et moi, ben, on peut aller demain dans un bordel, et puis pas de souci. Et pour eux, comment ça se passe ? Parce que visiblement, c'est pas la même affaire, quoi. Je pensais pas du tout me retrouver un jour dans la peau moi-même d'une assistante sexuelle. Je voulais savoir vers qui je pouvais les diriger. C'est comme ça que j'ai entendu parler du CEP, Sexualité Handicap Pluriel, qui est l'association dont Catherine Acte-Dizeran est l'ex-présidente. Puis on m'a proposé de faire la formation, alors je m'y attendais pas, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et je l'ai fait, et j'ai trouvé cool. C'est des cours, on rencontre des médecins, des avocats, des spécialistes. C'était 3 modules, le premier c'était... très axé sur de la psychologie, je trouvais. C'était une bonne entrée en matière aussi. Et puis le deuxième module, c'était très médical. Et le troisième module, c'était le côté juridique. Donc moi, j'étais la seule à ne pas du tout venir du monde de la prostitution. Et puis je rencontrais plein de femmes de ce milieu-là, quoi, qui avaient un profil très empathique. Et c'est génial, quoi.
Comment est-ce qu'on apprend, en fait, avoir une relation saine et naturelle avec ces personnes handicapées ?
Non, alors c'est la personne qui demande. Moi, je ne fais pas de prospection. Okay. J'appelle pas, je distribue pas des cartes. C'est toujours des personnes qui demandent et puis elles rencontrent d'abord des sexologues, des spécialistes dans le domaine. S'ils ont des psychologues, des psychanalystes, tout le monde est informé en fait. Hein. Quand la personne arrive vers moi, quand j'obtiens ses coordonnées, c'est que la personne a normalement déjà été ciblée comme, enfin voilà, je me sens pas à l'aise avec mon corps, je voudrais le découvrir. Et puis ils ont soit peur, soit ils n'ont pas l'occasion de pouvoir le faire avec un partenaire de la vie, quoi. Alors si on me demande de présenter quelque chose de plus médical, je m'évertue à oublier toutes les formes d'informations que j'ai sur les handicaps de mes bénéficiaires. Et d'y aller sans info, sans rien, et puis comme ça, quoi. Ça permet aussi, je pense, de pas... d'avoir aussi le côté découverte, en fait, naïf de... Ben, tiens, comment tu fonctionnes, quoi. Tu y vas sincèrement et tu y vas comme si c'était quelqu'un comme toi.
Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois ?
Ma toute première fois. J'avais 24 ans. Et... je crois que j'étais assez excitée dans le sens « waouh, je vais passer le cap, je vais le faire ». Et puis ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de blesser, j'ai peur de, en fait, de pas être à la hauteur. Voilà. Donc tu rentres chez la personne et tu y vas le plus simplement possible.
Donc vous ouvrez la porte et qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, je suis reçue par quelqu'un, c'est toujours l'auxiliaire de vie qui t'ouvre, qui te propose un café s'il est de bonne humeur, peut-être. Moi, j'ai toujours demandé un petit moment pour faire un peu ton hygiène, parce que tu prends les transports en commun, c'est pas très évident. Puis toujours, on te donne un petit linge, puis après, c'est en vis-à-vis. T'es chez la personne, alors c'est super touchant aussi, hein. C'était une personne qui n'avait pas de mobilité. Son corps était presque figé.
De quel âge ?
Un tout petit peu plus âgé que moi. Et pas de parole, de par son handicap. Une personne qui ne peut pas s'exprimer n'est pas dépourvue d'expression. Donc on peut peut-être pas le faire verbalement, mais gestuellement, les yeux... tu le vois tout de suite sur le visage, un son de voix un peu plus rauque, par exemple. Il y aura toujours quelque chose. Ça, un sourire, voir sentir le corps qui va un peu mieux pour un bref laps de temps, parce que tu leur donnes du plaisir. Ça va les habiter pendant tout le temps avant que tu vas les revoir. Mais aussi, ça va leur faire du bien physiquement. Tu leur apportes un véritable bien-être. Ils vont être plus relax, plus détendus, plus heureux. Et ce moment de sensation physiologique, tu sais que tu l'as laissé à l'autre. Si tu l'as vu jouir, tu l'as senti jouir, tu l'as regardé jouir. Et ça, je trouve ça mais génial. Mais vraiment génial, quoi. Alors maintenant, bah, c'est le cas de plusieurs autres personnes qui ont des handicaps de type un peu régressif. Ça veut dire que la situation va faire que empirer. Imagine, tu te retrouves après un accident ou une maladie dégénérescente à devoir te dire « Tiens, je vais passer le reste de ma vie sous respirateur, sous perfusion, jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, avec des douleurs du corps qui vont aller s'amplifiant. » Et si tu as déjà vécu une relation sexuelle avec une petite amie, une amoureuse ou quelque chose, tu te retrouves dans un établissement vide et toute ta vie est régulée par le personnel, l'organisation d'établissement. Je veux dire, demain, ça peut être fini, quoi. Donc du coup, j'ai en fait pour moi un bénéficiaire auquel je vais donner le max de plaisir, de bons moments avant qu'il parte. Pour moi, ça a été facile. Enfin, non, à part ces questions de faire mal à l'autre ou tu sais pas un peu trop sur quel pied danser, le reste, de manière générale, c'était facile. Le côté difficile, c'est le côté sportif. Des fois, le coït, c'est quand même difficile à réaliser. Le corps ne le permet pas forcément de manière aisée. Je dirais que, franchement, des fois, ça a eu trait à de l'acrobatie. Et ce côté sportif, en fait, aussi a fait que, sur place, ben, t'es aussi consciente que tu dois faire passer un bon moment, tu dois être jolie à regarder, donc prendre soin de toi, éviter de faire des gestes qui te mettent pas à ton avantage au niveau du champ de vision. Donc, sur place, ben, vraiment, j'essaye de faire le meilleur pour l'autre. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident. Parce que ça a déjà arrivé qu'il y a un problème, par exemple, une sonde urinaire qui se déplace, puis qui se décroche, et puis toi, t'es là, ok, mais on va gérer ça. Et de le faire avec simplicité, avec humour, et puis surtout pas dramatiser. Et puis, moi, j'ai pas vraiment cette fonction du dégoût. Pour moi, ça viendrait même pas à l'idée. Pour moi, c'est tellement naturel que voilà. Et du coup, bon, bref, cette conscience de vouloir bien faire, ça fait que t'es pas vraiment dans ton ressenti à toi. Bien sûr, je suis contente quand il est content ou elle est contente, parce que j'ai aussi fait des assistances avec des femmes. Mais t'es pas là pour toi. Tu partages un bon moment, tant que ça se passe bien, t'es heureux avec l'autre et c'est une simple empathie.
Est-ce qu'il y a une différence notable entre les femmes et les hommes ?
Oui, les demandes sont pas pareilles. Déjà, il y a moins de femmes qui demandent que les hommes. Et puis après, les femmes, elles vont pas forcément aller directement vers une demande hétérosexuelle. Elles vont plutôt vers une demande homosexuelle. Est-ce que c'est pour des questions de tendresse, d'affection, de douceur ? Elles se sont peut-être forgées une image très stricte de qu'est-ce que c'est le masculin. Et puis elles se disent, je vais avoir mal au corps parce que je pourrais pas vivre une pénétration ou... Enfin, parce qu'il y a aussi beaucoup d'imaginaire. Hein. Si on n'a jamais eu de sexualité à deux avant, on peut imaginer tout n'importe quoi.
Est-ce qu'après, il y a un moment de tendresse ? Est-ce que tu restes un peu ?
Bien sûr, bien sûr. En fait, une assistance dure une heure. Et quel que soit le moment où l'orgasme peut advenir, parce qu'il y a certains bénéficiaires qui auront des handicaps un peu plus complexes et puis qui ne peuvent pas jouir exactement comme un quidam lambda, on prend le temps, de toute façon on va pas se quitter à l'arrache parce que l'heure elle est passée et puis voilà. Donc il y a toujours un moment pour redescendre un peu de l'émotion, du plaisir aussi. Il peut cependant arriver qu'un bénéficiaire se dise bah, tiens, j'ai eu mon plaisir, puis c'est fini parce que je me sens mieux comme ça. Ce n'est pas spécialement mon rôle de ne faire que des bisous. Bien sûr, il y a de la tendresse, c'est évident, mais je ne suis pas une assistante de tendresse. Ben, sinon, ça ressemblerait à aller jouer au Scrabble, et puis on se fait des hugs, et puis c'est joli aussi. Mais ce n'est pas mon rôle. Alors maintenant, j'ai pris un peu de la bouteille, j'ai un peu plus d'expérience, donc du coup, je fais un peu rigoler mes bénéficiaires aussi, si je peux. Hein. Mais en règle générale, ils ont tellement d'humour. Alors le temps, pour certains, que j'ai revu plusieurs fois, entraîne une certaine familiarité. Alors on dirait, c'est pas professionnel, mais je veux dire, tu connais pas la personne, mais tu es si proche en même temps que tu peux largement t'autoriser un tu et puis avoir une relation presque amicale, sans créer une relation de dépendance avec la personne.
Comment est-ce que vous arrivez à ne pas créer cette relation de dépendance sur la durée ?
Bah déjà, on attend, on a un minimum de 1 mois à respecter entre chaque prise de rendez-vous. Et puis c'est vrai, hein, si tu vois quelqu'un, un partenaire sexuel, puis tu le revois pas avant 1 mois, puis tu sais que tu vas pas le revoir avant, bah y a pas d'attache. Tu vas te réjouir de repasser un bon moment, mais tu peux pas te projeter avec dans la vie.
Et tomber amoureuse, c'est jamais arrivé ?
J'ai eu un sentiment assez fort pour une personne qui avait eu un grave accident. J'ai eu ce début comme ça, waouh, d'un coup, je me suis sentie un peu partir. Puis en fait, je devais déménager. Et puis ensuite, j'ai eu ce début de relation avec mon compagnon actuel. Et du coup, après, je me suis pas reposé cette question. Mais je sais que vraiment, j'ai eu des sentiments forts. Pour cette personne.
Mais est-ce qu'à un moment, pendant toutes ces années où vous étiez assistante sexuelle, vous en étiez ouverte à vos proches ?
Oui. La plupart de mes amis, ils ont super bien réagi. Mais il y a des personnes qui ont pensé que j'étais complètement malade mentale et que je devais cacher des sexualités parallèles graves. Que direct, t'es une pute, on peut baiser avec toi comme ça. Puis du jour au lendemain, ton rapport d'amitié ou de social, en fait, est complètement détérioré. Enfin, voilà, c'est pas... Comment dire ? Pour un partenaire lambda que tu viens de rencontrer depuis X temps, tu fais l'amour avec, et puis finalement, ça devient les petits soupers romantiques, et je te dis qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ben là, tu caches ce métier, tu continues à le faire en anonymat, ou tu le dis ? C'est pas la même chose que si tu dis, je fais un apprentissage en commerce ou comme ça. C'est un peu plus classique, on va dire. Donc ça a été des petites choses difficiles à gérer. Et puis moi-même, avec ce côté féministe, il y a eu un moment quand même où je me suis dit, le prochain homme qui veut vraiment avoir un projet construit avec moi, un projet de vie ou quelque chose, il devra passer sur le fait que, je suis assistante sexuelle. Et puis j'ai fait la rencontre de mon compagnon actuel, il y a presque 2 ans maintenant que nous sommes ensemble, on se connaît depuis pas mal d'années.
Et lui, il l'a pris comment ?
Il l'a bien pris. Il l'a vraiment bien pris. Mais c'est vrai que même normalement, j'en parle pas en rentrant chez moi. C'est vraiment... c'est lié à le secret professionnel. De toute façon, je dis pas de nom, il y a pas de... C'est pas traçable. Si j'ai un problème avec ça, je vais téléphoner à Catherine Acté-Dizeran. Parce que c'est elle qui m'a formée et puis c'est la plus apte à pouvoir m'aider et m'épauler. Et puis elle le fait avec brio. Et du coup, je sais pas, normalement, je n'ai rien à déverser en arrivant chez moi. Maintenant, ça m'est arrivé pour quelques situations de me sentir un peu désemparée, mal, pas dans mes chaussettes, parce que c'est pas un job très facile, et puis que j'ai dû m'occuper de quelques personnes qui étaient plus difficiles à encadrer. Puis comme j'étais chez moi, il vit avec moi, alors du coup j'en ai un petit peu parlé, et puis là j'ai vu que c'était un petit peu difficile pour lui.
Et vos parents ?
Mes parents sont... J'imagine qu'ils ne sont pas au courant. Je leur ai jamais dit parce que j'avais peur de les attrister. C'est-à-dire que je ne sais pas si mes parents comprendraient. Je ne pense pas que mes parents pensent que parce qu'ils sont avec handicap, ils n'ont pas le droit de se reproduire, donc ils n'ont pas le droit à une sexualité. Non, je ne crois vraiment pas que mes parents pensent ainsi. Mais par contre, disons que tu vas pouvoir aider les personnes avec handicap, mais coucher avec ou être nu à côté d'eux ou les toucher ou les caresser ou les masturber. Alors là, non. Pour mes parents, ça serait difficile à envisager le fait que, peut-être il y a des femmes qui peuvent faire ça, mais que leur fille fasse. Ils auront un peu mal. Ils auront mal par rapport à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et puis peut-être qu'ils auront mal aussi pour le bénéficiaire en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire ça ? Il pourrait faire autre chose, etc. Puis en fait, non. Tu peux pas dire à quelqu'un, Ah, tu peux pas faire l'amour, mais tu peux tricoter. Enfin, en tout cas, mes sœurs, parce que c'est avec elles que je discute de ça, mes frères, on est un peu plus distants, elles ne m'ont jamais jugée. Elles ont été un peu surprises, mais en même temps, je crois que ça leur a paru normal.
Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est si difficile, voire impossible aujourd'hui pour la société dans laquelle on vit d'en parler ?
Pour moi, toutes les sociétés peuvent entendre tout. Le problème, c'est simplement qu'on n'en entend pas parler. Maintenant, ça commence un petit peu à bouger, mais il n'y a pas de publicité, quoi. C'est... Après, je sais qu'il y a, donc le CEP, Sexualité et Handicap Pluriel. Et puis, il y en a encore une autre qui s'appelle Corps Solidaire. Et il me semble aussi qu'il y a des hommes qui ont été formés à Corps Solidaire. J'ai des connaissances qui m'ont dit, ben tiens, ça m'intéresserait, je crois. Donc ça fait du chemin et ça me ferait plaisir qu'il y ait d'autres personnes jeunes, motivées, ayant envie de vivre cette formation. Maintenant, ben, c'est vrai que d'en faire une carrière, ben, y a rien de plus fragile hein, comme profession. C'est pas régulier, c'est pas, tu vas pas gagner ta vie et tu vas pas manger avec ça, quoi. Mais pour le moment, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. L'assistance ne m'a jamais vidé de mon énergie, jamais. Au contraire, en fait, je trouve que c'est un magnifique... Enfin, ça apporte véritablement, ça ne prend pas, ça apporte. Imaginons que, je sais pas, tu sais, quelque chose d'horrible dans ta vie t'arrive et puis t'as la voix de ta mère qui dit « Tu vois, j'avais bien raison », ou l'église catholique, genre « Ouais, il fallait pas faire ça, la sexualité du mariage contractuelle, établie socialement, elle est sacrée et tu peux pas passer au travers », eh ben, même si ils avaient tous raison, même si, je resterai toujours avec les souvenirs que pendant ces années où j'aurais pratiqué l'assistance sexuelle avec toutes ces personnes, elles ont eu du bien. Ça leur a fait du bien.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!